Aujourd'hui à Histoire d'idées, la condition la plus favorable à la créativité. Il existe une panoplie d'études qui ont, à leur manière, tenté de mieux comprendre les mécanismes créatifs, de mieux comprendre ce qui contribue à la formation d'une idée. Selon les travaux de Teresa Amabile de l'Université de Harvard, il existerait trois conditions qui favoriseraient la créativité. La première, les connaissances et les compétences dans un secteur donné. Une manière simple de l'imager serait de dire que vous aurez peu de chances d'avoir l'idée qui révolutionnera les marchés financiers si vous ne disposez pas des connaissances de base en économie. La deuxième condition est ce qu'il est convenu d'appeler les compétences créatives. On les nomme compétences, mais elles se rapprochent plus en fait de comportements, de manières de voir, de traits de personnalité. On peut penser à l'ouverture à la nouveauté, la valorisation de la diversité, la pensée dissidente, la prise de risque et l'objectivité. Selon Amabile, cette deuxième condition domine même la première, dans le sens où les seules compétences d'un secteur déterminé ne peuvent contribuer à elles seules à stimuler la créativité. Mais la plus importante de toutes, celle qui prendrait le pas sur toutes les autres, c'est la troisième. Toute simple cette fois-ci, la motivation personnelle. C'est donc dire que même avec de faibles compétences spécifiques ou même créatives, la personne motivée pourra quand même être à la source de la meilleure des idées. L'exemple suivant démontre bien la force de cette motivation. Nous sommes aux alentours de 1830 à Paris, 5300 ans après l'invention de l'écriture par les Sumériens. Le désir grandissant de justice sociale au sein de nombreuses sociétés donna à des scientifiques et spécialistes de l'époque l'idée d'inventer un nouveau système d'écriture destiné aux personnes non-voyantes. Après de nombreuses années d'essais et de tests, tous infructueux, la réponse vint d'où on l'attendait le moins, au point où on peut imaginer le niveau d'humilité dont l'establishment scientifique dut faire preuve pour reconnaître que c'est un jeune garçon de 16 ans, nommé Thomas, qui trouva la solution. L'adolescent qui ne disposait pas de compétences particulières avait toutefois un avantage qu'aucun éminent spécialiste ne pouvait égaler. Sa motivation. Thomas était aveugle. Son nom complet? Thomas Braille. C'est en s'inspirant d'un type d'écriture tactile, inventé par des militaires français nommé l'écriture nocturne, que le jeune Braille développa le système qui porte aujourd'hui son nom. La proposition de Braille allait même encore plus loin, car si elle permettait effectivement la lecture d'un texte par une personne non-voyante, elle leur permettait du même coup d'enfin pouvoir écrire. Un système si simple et si parfait, qui, 200 ans plus tard, est demeuré presque inchangé. L'exemple de Thomas Braille démontre à quel point la motivation et l'expérience personnelle furent déterminantes au développement de ses idées. Car Braille, même sans compétences, connaissait plus que n'importe qui ce qu'était la vie d'un aveugle, motivé par le désir de lire et d'écrire. Et si on se reporte à aujourd'hui, qu'en est-il de nos sociétés hautement spécialisées? N'aurait-elle pas, en misant tout sur l'expertise, un peu oublié la valeur irremplaçable de la motivation? Disposons-nous encore de cette suffisante lucidité qui, lorsque les circonstances le commanderont, nous permettra de remplacer l'individu compétent par le motivé? C'est ce qui complète cette chronique. Ici Jean-Sébastien Girard qui vous rappelle de ne jamais négliger votre dernière idée car c'est peut-être celle qui fera que le monde va changer. Au revoir et à une prochaine histoire d'idées.